tout de suite sur Radio Saint-Fé, Petites Échappées.
Petites Échappées, ce sont des chroniques, des reportages, des enquêtes, des créations sonores.
Des formats courts, moyens ou un peu plus longs pour profiter encore plus des pépites sonores sélectionnées par l'équipe de rédaction de la radio.
Petites Échappées, tous les mercredis de 15h à 16h et en rediff le dimanche de 8h à 9h.
Bonjour à toutes et à tous. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter a été enregistré le 17 mai au cinéma L'Éden de Cré dans la Drôme, où avait lieu une projection du film La théorie du boxeur. Ce documentaire, produit par l'association Kamehameha, cherche à comprendre comment les agriculteurs et agricultrices s'adaptent au dérèglement climatique. À l'occasion de sa sortie en coffret clé USB, l'association a décidé d'inviter 4 intervenants et intervenantes pour creuser des sujets connexes au film. Sortie en mars 2024, la théorie du boxeur a voyagé partout en France et cherche à créer des ponts entre la société civile et le monde agricole. Ce podcast est pensé avec la même intention. Je vous laisse entre les mains de Charlie Delbois, animatrice à Radio Saint-Ferréol, pour ce passionnant échange.
Pour notre première discussion, nous allons avoir l'occasion d'échanger avec François Goldin, qui est en charge de la pépinière des alvéoles, que je te laisserai présenter.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc à Cobonne, peut-être que certaines connaissent. Et Céline Basset, toi tu cumules plusieurs rôles, tu es doctorante en sciences des gestions et des sols, tu mènes un travail transversal, tu accompagnes les acteurs, actrices agricoles et publics sur les enjeux de résilience des sols et de sécurité alimentaire, et tu es spécialisée en microscopie. On va découvrir ensemble le monde de la microscopie. Tu réalises également des analyses microbiologiques et des élevages microbiens pour les sols. Voilà.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les deux. Et alors, ma première question, en réaction au film du coup, qu'on a regardé ensemble, c'était de savoir en quoi le film fait écho à votre expérience ou à vos projets respectifs.
Ça fait écho, en fait, moi, ça me replonge en 2008-2009, au moment de ma prise de conscience, sur vraiment la finitude de certaines ressources et en parallèle l'abondance de certaines autres ressources issues du vivant. Donc ça fait écho, et puis après ça fait écho avec ce que je vis sur le territoire depuis que je suis venu m'installer là en 2016. Et où j'apprends à connaître le territoire, ses habitants, les êtres vivants qui sont sur ce territoire-là aussi. Et j'ai vraiment une sensation de m'enraciner fortement ici et de découvrir à quel point il y a tout ici. Voilà. Et en même temps, de voir aussi d'un autre côté que il y a des gestions des communs qui sont toujours faites dans un sens qui nous emmène malheureusement dans un mur. Et du coup, ça fait écho à toute l'énergie que je déploie aussi au quotidien pour essayer de faire quelques pas de côté pour ne pas se prendre le mur.
Et est-ce que tu veux, avant que Céline, tu répondes à la question, nous parler un petit peu de comment on évite de se prendre le mur avec les alvéoles ?
Oui. Déjà, il y a un récit ambiant qui est un mythe de la rareté que beaucoup cultivent aujourd'hui et qui est cultivé au niveau planétaire. Et nous, on est plutôt dans un mythe de l'abondance, alors pas de l'abondance de tout. C'est surtout une remise en question en fait des paradigmes de base de développement de notre société libérale et capitaliste, où du coup notre éthique, elle va être vraiment dans toutes les actions qu'on fait ou dans toutes les réflexions qu'on va avoir, basée sur une éthique qui consiste à prendre soin de la terre. Et en fait ça change tout, de prendre soin des humains qui sont autour. Et en fait, ça change tout. Et de mettre une limite à la consommation aussi, et à redistribuer les surplus, mais les surplus de tout, en fait. Et encore une fois, ça change tout. Donc c'est vraiment de remettre une éthique, un alignement au niveau de notre positionnement en tant qu'être humain. Pourquoi est-ce qu'on est là? Et avec cette éthique-là, ben, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Merci. Tu as dit prendre soin de la terre, prendre soin des sols. Est-ce que ça fait écho aussi, toi, à tes travaux et ce qu'on a pu voir dans le film, Céline?
Par rapport au film, c'est plutôt la situation des agriculteurs et des agricultrices qui a vraiment fait écho. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils en ont gros. Et on est quand même dans un cul-de-sac au niveau méthodologique et au niveau des solutions. C'est-à-dire qu'on a soit des méthodes agroécologiques, soit des méthodes en agriculture biologique, soit des méthodes en agriculture conventionnelle ou raisonnée. Et donc, en fait, dans toutes ces cases dans lesquelles est définie les pratiques, la lourde responsabilité revient à l'agriculteur ou à l'agricultrice, ou au paysan ou à la paysanne. Et justement, ça a fait écho, puisque quand je me suis installée en 2019 sur les terres maraîchères de ma mère, j'ai vécu cette installation agricole, cette lourdeur administrative, ces défis qu'on a au quotidien entre manquer d'eau ou des terres trop argileuses ou des rendements qui ne vont pas être là parce qu'il y aura des ravages avec des parasites ou des maladies. Et donc, le chiffre d'affaires n'est pas là. Et donc, je ne peux pas payer mes factures. Donc ça, c'est une réalité en fait, qui m'a vraiment touchée. Et les paysans, les paysannes, c'est quand même le fondement de mes travaux plus tard, que j'expliquerai plus tard, de la sécurité alimentaire, et que s'il n'y a pas ces paysans et ces paysannes, ça va être compliqué pour pouvoir manger et pour pouvoir être dans cette culture de l'abondance. Donc ils sont plutôt à chérir et ils sont assez malmenés. Donc ça, c'était le premier écho. Et le deuxième point, c'est l'outil avec lequel ils travaillent, qui est le sol, donc en fait, qui est souvent perçu comme une chose inerte. On parle de sol vivant, mais en fait, on ne sait pas non plus de quoi vraiment on parle. Je m'en suis aperçue aujourd'hui aussi. Sol vivant, c'est quoi? Non, c'est pas que les champignons, et on en parlera après. Il y a tout un monde et tout plein d'habitants qui vivent en dessous de la surface du sol, ils sont à la base et au fondement de nos sociétés.
Eh bien, justement, là, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces habitants et habitantes du sol? Parce que toi, c'est ce que tu mets au cœur de tes travaux de recherche et notamment des stratégies de sécurité, qu'elles soient alimentaires ou nationales, et notamment à travers l'étude de la microbiologie et de la microfaune dans la Drôme.
Oui, alors c'est vrai que c'est un drôle de manière d'amener le sol au cœur du politique, en fait, de repolitiser le sol. Marc-André Sellos, il en parle aussi, mais de manière plus engagée. Moi, en tant que scientifique, je ne peux pas être engagée de manière très nette. Par contre, ce que je m'aperçois, c'est qu'en termes de fonctionnalité, ces habitants du sol, qui sont des bactéries, des champignons, des protozoaires, des nématodes et des petits insectes micro-arthropodes, ils constituent une chaîne alimentaire souterraine. Et que sans eux, il ne peut pas y avoir de petits couloirs dans le sol, il ne peut pas y avoir de salles dans lesquelles ils vont se reproduire ou faire de l'acide humique, par exemple. Donc en gros, sans eux, le sol n'existera pas. Sans eux, le sol n'est juste que matière inerte ou physico-chimique et dysfonctionnelle. Donc cette chaîne alimentaire, si un maillon manque, il y a tout qui s'effondre. Et donc ça se traduit comment? Ça se traduit par des problématiques dans les pratiques de transition agricole. Par exemple, avoir des rendements agricoles, c'est important, et donc le changement de pratique fait peur aujourd'hui. Et donc ce changement de pratique, sans la biologie, sans avoir pensé à cette biologie, à remettre la biologie en place, ça se traduit en temporalité excessivement longue pour un agriculteur et donc aussi pour des personnes qui souhaitent manger local.
Et du coup, pourquoi est-ce que cette question de la vitalité des sols, pour toi, elle est aussi importante et peut-être pas assez prise en considération, même si on l'aborde comme les questions de l'eau et du sol, c'est abordé dans le film, mais de manière générale, dans la société civile, on a peut-être pas idée de à quel point c'est important?
Déjà, la vitalité du sol, c'est donc ces micro-organismes et cette petite microfaune. Donc, vous en avez vu un petit extrait, un petit truc bouger, c'était des clichés microscopiques. Et en fait, ils sont invisibles. Et le fait qu'ils soient invisibles et qu'ils ne soient pas mis en avant, notamment à travers un microscope, eh bien, ça ne nous permet pas déjà de prendre conscience qu'il y a un monde sous nos pieds, de manière concrète, et mettre du visuel. Et deuxièmement, tous ces petits habitants du sol, ils rendent des services comme justement, je te renvoie la balle aussi Antoine, l'une des premières fonctionnalités écologiques d'un sol, c'est de infiltrer et stocker l'eau, mais c'est aussi de remplacer les engrais. Normalement, les engrais, ils sont tous biodisponibles lorsqu'on a de la biologie. Aujourd'hui, ils ne sont pas biodisponibles parce qu'il manque de la biologie. Et aussi de capter le carbone, et pas que, de lutter contre les incendies, les inondations. Donc toutes ces fonctions en fait écologiques rendues par les habitants du sol vont permettre une transition agricole beaucoup plus importante. Et ils sont au cœur de la sécurité alimentaire. Et si jamais vous venez à manquer d'eau ou d'alimentation dans votre assiette, on l'a vu avec du PQ pendant le Covid-19, les gens, il y en aura qui partageront, mais il y en a qui ne vont pas partager. Donc c'est vraiment impératif de replacer la biologie du sol au centre.
Et puis justement, comment vous faites, vous, pour replacer la biologie du sol et de manière générale pour créer des écosystèmes vivants et productifs au sein des alvéoles, François ?
Et ben, la réponse est un petit peu dans la question. C'est-à-dire qu'on considère effectivement des choses comme des écosystèmes, et on peut le prendre par la loupiote du microscope et de la vie du sol, mais on peut aussi le prendre par l'entrée de l'eau et de la gestion de l'eau dans le paysage. Et on peut aussi la regarder d'un point de vue des plantes. Quelles sont les plantes qu'on a implantées dans nos paysages? À quel endroit? Est-ce que c'est stratégique de les mettre ici ou pas? Et en fait, ben, on vient re-questionner effectivement des choix politiques de gestion forestière, de gestion des parcelles et des haies. Voilà. En fait, l'idée, c'est de regarder tous les aspects, non pas séparés les uns des autres, mais de les regarder ensemble et de regarder leurs interactions les uns avec les autres. Et l'idée, en fait, qu'il y a derrière, c'est de se dire qu'on connaît des cercles vicieux. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait mettre un sol à nu et puis qu'il se retrouve lessivé assez rapidement par des grosses précipitations dues ou pas au changement climatique. Mais derrière, on perd du sol. Le sol part dans les petits torrents, les petites rivières ou directement dans la Drôme et se retrouve au niveau de la zone de confluence, allant boucher les barrages hydroélectriques. Et puis, ben derrière, plus de sol, plus de réserves d'eau, manque de micro-organismes, et on est parti pour un cercle vicieux qui va amener de la sécheresse, et des sécheresses un peu poussées comme en 2022, et on voit que, paf, il suffit d'une étincelle, et il y a 200, 300 hectares qui partent en fumée. Et l'incendie re-rase le sol et réamplifie le phénomène de « Ah, prochaine pluie, érosion, tout dans la Drôme. » Et prochaine sécheresse, encore plus sec, et ça va recramer. Donc, on est dans un cercle vicieux. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce cercle vicieux et pour réenclencher des cercles vertueux ?
Très bonne question. Qu'en penses-tu ?
Plusieurs solutions.
Comment est-ce qu'on fait ?
On fait avec une vision systémique.
On le fait avec une vision systémique. Nous, on parle de vision holistique. Ça veut dire la même chose, en fait. C'est simplement de plus considérer les choses comme séparées, mais ayant du lien, des interactions les unes avec les autres, et de se dire où est-ce que nous, êtres humains, on peut mettre la plus petite énergie pour avoir le plus d'impact possible. Et nous, du coup, on s'intéresse fortement à comment est constitué le paysage. On a des activités aussi d'architectes paysagistes, et on se rend compte qu'il y a des gestions du paysage qui ont été faites dans certains intérêts, mais pas dans l'intérêt de relancer des cercles vertueux.
Et tu as parlé tout à l'heure de remettre en place des haies, vous faites aussi de la plantation d'arbres. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire tout ça, planter des arbres, remettre des haies, très concrètement ?
Très concrètement, j'ai envie de dire que c'est parce que c'est eux qui nous accueillent sur cette planète. Très concrètement, si on n'avait pas les arbres, ou les algues, ou les végétaux, avec la photosynthèse, juste on ne pourrait pas respirer, et ça durerait à peu près 3 minutes pour chacun.
Donc on les remercie en essayant de les réintroduire, c'est ça ?
Eh ben ouais, et ils rendent notamment ce service de faire de la photosynthèse et de nous permettre de respirer, et du coup de nous permettre de brûler notre alimentation pour avoir de l'énergie pour se mouvoir et alimenter notre téléencéphale hautement développé et notre pouce préhenseur. Et du coup, ben, il faut se poser la question de, avec notre téléencéphale et notre pouce préhenseur, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ces arbres ? Pour faire en sorte qu'ils continuent à nous nourrir, qu'ils continuent à nous abreuver en infiltrant l'eau, qu'ils continuent à nous faire respirer, qui sont quand même des fonctions un peu essentielles.
Et j'imagine aussi accueillir d'autres
espèces. Et évidemment, accueillir énormément d'autres espèces aussi et faire en sorte qu'ils nourrissent aussi la microbiologie des sols, c'est-à-dire que la microbiologie des sols nourrit les arbres en décomposant de la matière avec toutes ces chaînes trophiques, mais les arbres nourrissent aussi les micro-organismes dans leur rhizosphère. Il y a des échanges avec des bactéries, ou avec des champignons, ou avec d'autres aussi, parce qu'il y a des fois des radicelles qui meurent, des branches qui tombent, des feuilles qui tombent, mais il faut digérer tout ça. Et ils sont là, c'est les intestins du sol, et le sol n'est pas que microbiologie, c'est aussi une réserve d'eau. C'est, moi, je veux bien qu'on fasse des barrages, des cuves, des réserves comme ça pour arroser, abreuver l'agriculture. Mais en fait, les principales réserves d'eau, c'est dans le sol. Et c'est là que ça coûte le moins cher. Ça coûte 100 fois moins cher le mètre cube stocké dans mon sol que stocké dans ma cuve IBC.
Alors là, vous nous présentez d'autres façons de repenser aussi la façon de cultiver, de prendre soin de la terre. Est-ce que ces façons-là peuvent permettre de nourrir des populations à grande échelle ?
Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Donc, les arbres, oui, ils peuvent, effectivement, ils ont pour but de nourrir cette microbiologie quand elle est encore présente. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des sols souvent à dominante bactérienne, donc c'est très compliqué pour des arbres de pouvoir se réintégrer dans un paysage. C'est un des défis d'ailleurs systémiques à lever tous ensemble pour pouvoir réintroduire cette biologie en premier dans le sol. Après, au niveau de l'agriculture, un des défis, c'est la temporalité. Et comme j'expliquais, la prise en compte de l'agriculteur, de la société qui a besoin de manger et de faire fonctionner aussi une économie, qu'elle soit libérale ou non. Là-dessus, c'est pas ma politique, je suis pas politisée là-dessus, mais en tout cas, il faut que ça fonctionne. Et faut qu'on rentre dans un cercle d'abondance et non pas de défaillance. Et donc au final, l'objectif, c'est quand même de transmettre des clés aux agriculteurs, aux agricultrices fonctionnelles, pratiques pour pouvoir justement en premier réparer ce sol de manière à ce que ça vienne pas faire non plus une deuxième journée et une surcharge mentale pour les hommes et les femmes du métier, parce que ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent quand on veut régénérer les sols. C'est l'ergonomie, en gros, de la transition. C'est-à-dire, comment est-ce que, bah, déjà, on n'a pas une installation agricole, on a plusieurs installations agricoles. On a des femmes seules, je pense à Sabine Couvent avec des enfants à charge. On a des fois des familles entières qui sont dans l'exploitation agricole. Est-ce qu'on exploite, est-ce qu'on n'exploite pas ? Voilà, comment est-ce qu'on travaille aussi, le positionnement ? Et c'est surtout la charge cognitive, en fait. Est-ce que dans une journée de 24 heures, un agriculteur va pouvoir intégrer l'introduction d'une haie, des nouvelles pratiques agricoles, par exemple, qui vont nécessiter des changements de machines, de pratiques, de quotidien. Donc ça, tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, on doit partir de la réalité actuelle de manière systémique et proposer un ensemble de solutions sur une temporalité dont François fait partie, et Antoine et toute l'équipe de l'hydrologie régénérative aussi. Mais c'est hyper important de d'abord commencer, je dirais, par une gestion de surface dans un ordonnancement, on va dire. Et après, une fois qu'on a fait cette gestion de surface, replanter des haies et tout ça, passer, surtout en hydrologie régénérative, de passer en régénération des sols.
Et tu me fais une belle transition, parce que justement, c'est l'occasion ce soir aussi de vous présenter un ouvrage que François a donc co-écrit avec Samuel Bonvoisin, donc François Goldin, Samuel Bonvoisin et Antoine Talin, que je vais montrer au public et que je vais dire pour nos auditeurs et auditrices de Radio Saint-Férol à l'oral, qui s'appelle « Cultiver l'eau douce, du jardin de pluie à l'hydrologie régénérative, des solutions concrètes pour régénérer nos écosystèmes ». Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, l'hydrologie régénérative. En tout cas, en Drôme, on en parle. C'est un sujet qui commence à quand même être bien infiltré dans tous les sols. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et aussi, est-ce que tu peux nous dire quel lien on peut faire avec comment ça rejoint les préoccupations qu'on peut avoir sur les sols vivants?
L'hydrologie régénérative, l'idée de ce bouquin, c'est justement de voir qu'on peut avoir des impacts à différentes échelles. De la petite jardinière de balcon, en passant par la ferme, en réfléchissant à une cohérence sur le sous-bassin versant ou sur le bassin versant. Et c'est aussi une proposition qu'on a lancée avec tout un tas de gens qui sont sur le territoire et qui sont actifs sur l'hydrologie régénérative. Alors on a parlé de Samuel Bonvoisin, on peut aussi parler des Amanins ou de Coditer ou du Gaec de Mont-Lahuc ou encore d'autres qui sont là et qui attendent que ça en fait, qui ont déjà fait des endroits pilotes à l'échelle d'une ferme ou à l'échelle d'une vallée et qui attendent qu'une chose, c'est de passer la seconde. Mais pour ça, on a besoin d'avoir un soutien aussi au niveau des communautés de communes, au niveau de la CLE, du comité local de l'eau. On a besoin d'avoir du soutien au niveau du syndicat mixte de la rivière Drôme. Et là, quand on commence à concevoir vraiment chaque goutte d'eau du bassin versant et à se dire quel micro-organisme il va pouvoir abreuver cette goutte d'eau ou quel besoin va pouvoir être satisfait là-dessus, effectivement, c'est des besoins à la fois humains, mais il y a aussi tout le reste. Et des fois, ça, on l'oublie. Et avec ce côté un peu prédateur qui rôde pas très loin, où en fait, si on fait que prendre, et puis rendre de l'eau souillée, chargée en débris, en sol, en fait, on reste dans des cercles vicieux. Et voilà, là, l'idée, c'est d'avoir des petits tutos, des petits tips pour pouvoir passer à l'action, chacun à son échelle.
Merci. On vous recommande donc la lecture de Cultiver l'eau douce. Et à présent, je vous propose, si vous avez des questions, de nous le dire, parce qu'il y a Nathanaël là, qui peut passer le micro dans le public. Si vous avez des questions à adresser à François ou Céline, c'est le moment.
Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport au sol, un peu plus spécifiquement. On parle beaucoup de la perte de biodiversité, les chiffres, on les entend régulièrement sur les médias, mais sur les sols, au niveau national, ça n'apparaît jamais dans les médias, on ne sait pas quelle est la perte. On sait qu'il faut plusieurs dizaines d'années pour reconstituer un sol à son climax maximal, et on ne sait absolument pas combien on a perdu depuis, je sais pas, les années 60 et la mécanisation et tout ça. J'aimerais bien savoir. Et la deuxième question, si je peux... Il y a eu des propositions politiques qui n'ont pas été trop écoutées sur mettre la santé du sol dans la Constitution, c'est-à-dire partir à l'envers. Et est-ce que ça, vous pensez que ça serait une partie aussi de la solution pour laisser une terre cultivable à nos enfants?
Merci pour ces deux questions très pertinentes. Alors, effectivement... Les sols, c'est pas sexy et c'est pas la mode en ce moment. Ça le devient tout doucement. En tout cas, c'est dans les tuyaux de l'Europe et c'est dans les tuyaux au niveau national. Sauf qu'on a fait les choses un peu à l'envers. Hein. Comme j'expliquais, on a d'abord pris soin de ce qui était à la surface du sol en oubliant que le sol, c'est un peu la fondation d'une civilisation et que normalement, ça commence par lui. Pour infiltrer de l'eau, il faut d'abord gérer un sol. Pour manger, il faut gérer le sol. Pour construire un bâtiment, il faut gérer du sol. Après, je vais rajouter quelque chose qui ne va pas faire plaisir, mais ce n'est pas 10 ans pour régénérer un sol, c'est des centaines d'années. Et ça va dépendre dans quel écosystème on est, dans quel contexte pédoclimatique on est. Donc, si on est en Méditerranée, si on est en subtropical, si on est dans d'autres écosystèmes et climats. Donc ça va prendre en compte. Et puis, il y a aussi d'où on part. C'est un peu comme un être humain. Voilà, on l'amène à l'hôpital. Dans quel état il est? C'est quoi ses fonctions vitales? Est-ce qu'elles sont endommagées? Si oui, comme le microbiote du sol, donc la biologie. C'est comme un intestin, pour le coup. L'intestin, le microbiote du sol et le microbiote intestinal, c'est la même chose. Et donc, ça vient pas en 10 ans ou en 5 ans. Ça peut revenir, mais ça viendra pas comme c'est censé revenir au bout de 500 ans ou au bout de 100 ans. Donc, on va considérer, en tout cas scientifiquement, qu'un sol va devenir stable dans le temps au bout d'une centaine, plusieurs centaines d'années. Ensuite, oui, en Europe, on a des problèmes. On est très avancé dans la dégradation des sols. Il y a plus de 60% à 70% des sols qui sont dégradés à l'échelle européenne. Donc ça, c'est une étude qui a été faite en 2025 suite à la déclaration de la directive européenne sur la surveillance des sols du 17 juin 2024. Donc la santé des sols, justement, est au cœur de cette directive européenne. Elle est aussi à l'initiative de ce qu'on appelle des Living Labs, qui sont un peu partout en Europe, en Espagne, et très récemment, en décembre, dans la Drôme, avec, je crois, le Val de Drôme, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est des sortes de laboratoires avec des différentes parties prenantes, donc souvent des associations, le monde de la recherche aussi, qui vont donc se regrouper pour élaborer, on va dire, des indicateurs qui vont aider à faire ce qu'on appelle une cartographie du sol en Europe, à prendre le pouls du sol au niveau européen. Donc c'est en cours, mais c'est long. C'est très très long, c'est très coûteux. On a des problèmes aussi méthodologiques au niveau scientifique, au niveau associatif, parce que souvent ces mondes sont encore en silo aussi. Donc, mais ils y pensent. Après, la santé des sols, c'est pas uniquement la dimension d'un sol. Un sol, ça revêt vraiment une pluralité et ça a une très grande ampleur dans ses dimensions. La santé des sols fait partie de la condition, la dimension condition, mais il y a aussi sa capacité de production qui sort de la condition, de l'état du sol. Et il y a aussi la valeur économique d'un sol. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne prend pas en compte les systèmes, les services écosystémiques d'un sol, dans la valeur d'un sol. Est-ce que c'est pour produire ou est-ce que c'est artificialisé? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc il y a des choix, il faut des outils de gestion pour aider à la décision au niveau institutionnel. Et puis on ne prend pas non plus en compte la connectivité, c'est-à-dire comme vous l'avez dit, on n'en parle pas dans les médias. Et puis bien souvent, même si je fais le voyage partout en France avec mon microscope pour faire voir les intestins du sol, en gros qui c'est qu'il y a dedans, ou qui c'est qui est absent bien souvent. Donc je suis obligée d'emmener avec moi des échantillons qui sont vivants, parce que souvent je trouve des sols délabrés à plus de 90%. Ils sont vivants, mais il n'y a que de la bactérie. Et la bactérie, c'est pas vraiment... On a besoin d'autre chose. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire pour démocratiser le sol et le remettre au niveau de la société civile, mais aussi, j'ose le dire, aussi même au niveau du militaire. Parce qu'un pays qui ne prend pas soin de ses sols, c'est un pays qui est à poil en termes de stabilité. Donc là, je fais écho, je ferai une petite parenthèse là-dessus, aux problématiques de guerre qu'il y a en ce moment en Europe, qu'il n'y a pas en Australie, je reviens d'Australie. Mais en gros, comment est-ce qu'un pays peut envisager sa stabilité sans avoir des sols en bonne santé, des écosystèmes en bonne santé, et faire un soi-disant effort de guerre, que sont les déclarations récentes de la Commission européenne? Moi, ça m'interroge, et donc tous mes travaux scientifiques, justement, parlent de ça, en fait, le sol, il est au cœur de toute une civilisation, donc il faut le penser dans toutes ses dimensions. Voilà, j'espère que j'ai répondu très largement à la question.
Et j'espère que vous avez été convaincus d'être encore plus curieux et curieuse du sol si vous ne l'étiez pas déjà. Donc là, on va accueillir Raphaël Anginot et Noé Giraud pour la seconde table ronde à trois. Et donc, merci beaucoup encore à tous les deux. Donc, Raphaël Anginot, qui est chargé de projet de la sécurité sociale de l'alimentation d'Ulfi Bourdeau Pont-de-Barré, ainsi que Noé Giraud, qui est géographe et producteur de raisins de table, double casquette. Et donc, je vous ai présenté brièvement, mais si vous voulez compléter quand vous aurez le micro, n'hésitez pas. Mais je vais quand même commencer par cette même question que j'ai posée à nos premiers invités. En quoi ce film, La théorie du boxeur, fait écho à votre expérience et à vos différents projets?
Bonjour. Donc je me présente un peu plus avant de prendre la parole pour situer un peu mon propos. Donc moi, ça fait un an et demi que je suis salariée du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation à Dieulefit et alentour. Et j'anime en particulier la dimension démocratie alimentaire, éducation populaire, qui a été mentionnée dans le film, et on reviendra dessus. Et justement, moi, c'est en ça que ce film fait écho, c'est qu'on parle beaucoup du constat dans ce film, qui est assez sidérant. Enfin, on est chacun à des étapes différentes sur la prise de conscience de la gravité de la situation. Mais merci, parce qu'il en parle très bien sur ce côté systémique, justement. On parle de cette approche globale. Mais je trouve qu'il en parle vraiment très bien. On comprend la complexité, ce qui n'est pas toujours évident. Mais par contre, on se pose toujours la question, après ces moments-là, des solutions. Et on a toujours ce truc un peu, cette espèce de déprime profonde qui nous empêche d'agir. Et du coup, moi, je suis très contente avec la Sécurité sociale de l'alimentation de m'être engagée dans ce projet, parce que c'est assez rare. C'est un projet engagé qui milite pour et pas contre, et qui construit en fait un modèle alternatif plus ou moins utopique, mais on espère quand même réaliste. Et voilà, et du coup, moi je vois le lien comme ça, quoi, avec la sécurité sociale de l'alimentation. Et puis c'est mentionné dans le film. Nicolas Bricasse en parle très bien, en fait, à quel point c'est un sujet politique et sans réappropriation démocratique du sujet de l'alimentation. On est dans cette impasse où on pense les choses en silo. Et voilà.
Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est concrètement que cette expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation ?
Donc, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un projet politique qui est porté au national par un collectif pour une SSA. Donc, SSA pour sécurité sociale de l'alimentation, c'est un peu long. Ce collectif est composé d'une vingtaine d'organisations œuvre sur le terrain très concrètement en faveur d'un modèle alternatif pour une agriculture paysanne et une alimentation durable. Donc on retrouve la Confédération paysanne, ces organisations, les AMAP, l'Atelier paysan, pour ceux qui connaissent. Mais c'est une vingtaine d'organisations qui se sont regroupées autour de ce projet politique et des expérimentations locales, dont par exemple nous on fait partie à Diolfi, donc des projets de caisses locales sur le modèle de la Sécu. Donc en fait, le projet, c'est de face à ce constat, donc qui est un constat global où tout est lié. Si on agit que sur, par exemple, les pratiques agroécologiques, c'est bien, mais c'est pas ce qui va faire changer le système. En fait, la question, c'est comment est-ce qu'on change ce système. Et on s'est rappelé qu'avant, la sécurité sociale, ça n'existait pas. La sécurité sociale de la santé. Et puis, à un moment, il y a des gens qui sont organisés pour que ça existe, et c'est passé dans le droit. Et donc, on a tous droit maintenant à cette sécurité sociale pour les différentes branches qu'elle regroupe actuellement. Donc, il y a le chômage, la retraite, il y a la famille, il y a plusieurs branches dans la sécurité sociale. Et le projet politique qui nous anime, c'est de rajouter une branche alimentation, en partant du principe que la santé, c'est important, mais finalement, l'alimentation, c'est aussi la base, quoi. Et en fait, c'est une décision... Enfin, tout est politique. Et à un moment, on a décidé que l'alimentation devait appartenir au marché et pas la santé. Alors, pourquoi ce choix ? Et donc, nous, on se questionne là-dessus en se disant, tiens, on pourrait sortir l'alimentation du marché et peut-être que ça aiderait, justement, à produire autrement. Puisque aujourd'hui, c'est quand même beaucoup les lois du marché qui dictent qui produit quoi, qu'est-ce qui est subventionné, sur quel territoire. Donc, si on réoriente la production vers l'enjeu de nourrir des populations sainement, ça change pas mal la donne. Et donc, c'est quelque chose qui existe, en fait. C'est pas si utopique, puisque ça existe. On a mis en place ce système de sécurité sociale financé par la cotisation sociale. Donc, c'est un système de financement qui existe. Et donc... dans ce projet, donc, qui existe depuis, qui est théorisé par des intellectuels, par des praticiens dans des organisations au quotidien, etc. L'idée, c'est donc de se baser sur trois piliers. La cotisation sociale comme mode de financement, qui est un mode de financement juste. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque, parce que c'est un projet qui est quand même complexe et largement théorisé, c'est un des trois piliers du projet de sécurité sociale de l'alimentation, ce mode de financement-là et pas un autre. Pas l'impôt, par exemple, qui est donc sur des questions de justice sociale, quoi. le conventionnement démocratique des agriculteurs, c'est-à-dire que aujourd'hui dans la santé, pour reprendre ce parallèle, il y a des médicaments qui sont conventionnés et d'autres non. La sécurité sociale rembourse des choses et d'autres non. Est-ce que nous, à un moment, on nous a déjà consultés pour nous demander si on voulait conventionner un ostéopathe, l'homéopathie ou alors le doliprane? Voilà, donc on peut se poser la question du conventionnement démocratique. Enfin, voilà, qui décide de ça? Et donc là, l'idée, c'est que, à travers ce conventionnement démocratique, en organisant les gens autour de cette, donc localement autour de caisses locales de sécu, quelle agriculture on veut soutenir, qu'est-ce qu'on veut rembourser entre guillemets, telle agriculture, pas une autre, avec des critères de gestion de l'eau, voilà. Donc ça, c'est le pilier démocratique en fait de la sécu, qui a été largement abandonné au fil des années, mais qui en fait était dans le projet initial tel qu'il a été mis en place en 47, était très fort. C'était des travailleurs qui décidaient des taux de remboursement, du financement, etc., dans des caisses locales départementales. Ensuite, la gestion a été reprise en main par l'État et on a perdu cette dimension vraiment très démocratique et très locale. Et le troisième pilier, c'est l'universalité du droit. Donc là, ça va adresser notamment le problème de l'aide alimentaire, parce que c'est ce qui n'apparaît pas vraiment dans le film, c'est la question des injustices alimentaires. On voit tous les impacts négatifs sur le vivant, sur les agriculteurs aussi, les injustices. Inutile de revenir dessus, parce que c'est quand même assez bien expliqué sur cette empathie qu'on peut avoir entre agriculteurs, même si on est dans des modèles différents. Il y a une injustice aussi du point de vue des agriculteurs, mais il y a toutes ces injustices vécues par les consommateurs qu'on pointe aussi du doigt en disant il faudrait qu'ils mangent plus bio, ils n'ont rien compris, c'est quand même vachement mieux d'acheter bio, d'acheter local, ceux qui ne le font pas, c'est leur responsabilité si le système n'est pas tiré vers le haut. C'est assez injuste pour plein de raisons, notamment pour la question du pouvoir d'achat. Et donc, on répond à cette problématique-là avec l'aide alimentaire aujourd'hui en disant c'est bon, le système est organisé de façon à ce que tout le monde puisse quand même accéder à une nourriture en quantité suffisante. On se pose peu la question de la qualité et peu la question de la dignité aussi. Et donc, l'universalité du droit permet de, comme la Sécu, on a tous une carte vitale, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche. Peu importe d'où on vient. Et donc, l'idée, c'est important d'avoir cette notion de tout le monde a ce même droit. Et c'est à travers le financement qu'on cotise chacun en fonction de ses moyens. Mais c'est une question d'éthique, presque, d'avoir ce même droit. Et donc, nous, ces principes-là, on les applique très localement à l'échelle de Diolfi et alentour, avec une caisse locale qui est aujourd'hui, qui compte. Donc, on a lancé il y a 2 mois. Après, un autre modèle de caisse, mais on ne va peut-être pas revenir dessus, mais il y a déjà eu une première expérimentation de caisse locale avec 3 niveaux de prix, où les gens payent à l'échelle de 3 niveaux de prix différents. Donc, ça crée une solidarité entre les consommateurs. Et là, on est passé sur le modèle on essaye de se rapprocher de la cotisation sociale avec une grille de cotisation en fonction des moyens de chacun. À 14 niveaux de... Enfin, on essaie d'être au plus proche, en fait, des revenus des foyers. Donc, on l'a lancé il y a 2 mois, et aujourd'hui, on a 85 adhérents, dont 40% cotisent moins que ce qu'ils reçoivent. Donc, c'est un système de solidarité entre les habitants. Certains... Donc, tout le monde va recevoir 100 € chaque mois. C'est une cotisation mensuelle. Donc, il y a une allocation comme ça de 100 € qu'on peut dépenser dans des points de vente qui sont conventionnés démocratiquement. Et là, on a 40% en fait des adhérents qui cotisent moins et reçoivent 100 €. Donc, ils vont cotiser 40, 50, 60, 80 €. Et 60% qui cotisent plus. Et donc, tout ça va dans une caisse commune. Et en redistribuant tout ça, ça permet de ce système de solidarité.
Merci pour cet éclairage. Est-ce que cette expérimentation, donc à l'échelle d'un petit territoire, aujourd'hui de moins d'une centaine de personnes, a déjà été faite sur des populations plus grandes, question. Et est-ce que cette idée révolutionnaire est réaliste à l'échelle d'un pays, selon toi? Même si on est dans la prospective, puisque ça n'existe pas, mais comme tu dis, la sécurité sociale, avant que ça existe, ça n'existait pas. Donc est-ce que c'est vraiment possible de mettre ça en place pour une grande partie de la population?
Noé, tu veux répondre? Non. C'est une question difficile. Après, c'est mon avis personnel, mais c'est une question difficile. Aujourd'hui, personne ne peut vraiment répondre à cette question. Alors, d'autres expérimentations existent dans des grandes villes, Bordeaux, Montpellier, Qu'est-ce que j'oublie ? En fait, on est une des premières caisses de France. Et il y en a une trentaine en cours de construction en ce moment. Et ces deux, trois dernières années, il y a eu un gros intérêt pour la sécurité sociale de l'alimentation. On est constamment en train de faire des retours d'expérience. On accompagne des collectifs à créer leurs caisses. Et après, en ce qui concerne le côté réaliste, moi, je crois beaucoup au côté local, à la réappropriation à l'échelle territoriale et à l'impact que ça peut avoir sur les filières locales. Au niveau national, c'est une histoire de... En fait, ce qui s'est passé avec la Sécu de la santé, c'est que des groupes locaux ont monté des caisses de Sécu, chacun avec des règles très différentes, parce qu'elles étaient portées donc, par des travailleurs, par exemple par des agriculteurs, ou alors par des médecins, ou alors par des mutuelles. En fait, c'était des configurations très, très différentes d'une caisse à l'autre. Et donc, c'était de la volonté populaire, quoi. Beaucoup portée par la CGT aussi, et les communistes. Et donc, Ambroise Croizat, qui a été ministre en 46, 45, 6 mois plus tard, a fait passer un décret qui a généralisé la Sécu. Donc là, c'est un gros courage. Enfin, voilà, c'est un moment, il y a quelqu'un qui a porté le projet et qui l'a généralisé, mais qui vient quand même d'expérimentation locale. Donc on s'inspire vraiment de ça en se disant, à partir du moment où il y aura plusieurs centaines de caisses sur le territoire, ça deviendra incontournable. Et aujourd'hui, donc avec déjà la dynamique très forte qu'il y a avec le collectif national, il y a une proposition de loi qui a été proposée à l'Assemblée nationale par le groupe ELV, qui n'a pas pu être discutée parce que c'était pendant leur niche parlementaire et qu'il n'y a pas eu le temps. Mais n'empêche que voilà, il y a quand même un groupe qui... Et ça, c'est que ça ait été voté ou pas, ou que ça le soit ou pas, en fait, ça montre quand même l'intérêt pour ce projet. Et ça donne un peu de l'espoir que ça puisse être porté politiquement, sachant que le collectif est vraiment organisé autour de cette question démocratique et pousse très fortement pour que les propositions de loi s'inspire de notre expérience de terrain en faisant très attention à cette dimension démocratique pour pas perdre en fait ce qui s'est passé avec la Sécu où on a perdu le pouvoir sur la question du financement et sur la question du conventionnement.
Merci. Donc tu nous parles de la démocratie alimentaire et du fait que il faut avoir peut-être commencer par le local, relocaliser ces expérimentations. Tu vois où je veux en venir, Noé ? Je te propose, Noé, de peut-être nous expliquer un peu ce que c'est qu'on entend pareil, aussi beaucoup parler de relocalisation alimentaire. Toi, c'est un de tes sujets de prédilection. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça veut dire en théorie, mais aussi en pratique ?
Ouais. Et juste avant, je rebondis sur la discussion du réaliste ou pas. Je vais prendre des risques, mais je pense que c'est totalement réaliste, en fait. Et je vois même pas pourquoi on devrait se poser la question du réalisme de cette proposition. Vu qu'elle part de quelque chose qui existe déjà, elle en fait la critique, mais en fait, globalement, je ne vois pas trop ce qui rendrait irréaliste la question, même en termes purement physiques, des flux de production, etc. Je veux dire, c'est tout à fait possible, et c'est même un des intérêts, je pense, aussi de la proposition sur l'aspect plutôt transformation du modèle agricole, c'est que c'est, je crois que ça a été chiffré à 120 milliards à peu près de budget annuel au niveau national. Donc c'est sortir 120 milliards de marché sur, je crois, je ne sais plus combien c'est aujourd'hui, mais donc une grosse partie du marché économique autour de l'alimentation en France, de le sortir du marché, d'en faire quelque chose de sanctuarisé, ou en tout cas qui revient dans le giron de l'intérêt général et de dire... cet argent, il va servir à transformer nos filières et à les rendre plus agroécologiques dans les modalités de production, etc. Et donc, en fait, c'est un énorme levier de transformation de notre système. Et donc, c'est pas la question, c'est pas si c'est réaliste ou pas, c'est pourquoi on n'y va pas. Et si on n'y va pas, c'est qu'il y a des enjeux économiques et politiques énormes. C'est très bien dit dans le film, je trouve, par Nicolas Bricasse, justement, quand il est interrogé sur la relocalisation, en expliquant... qu'on est sur une organisation de notre système alimentaire aujourd'hui qui permet à un certain nombre d'acteurs économiques de gagner beaucoup d'argent et d'avoir du pouvoir. Et donc, à partir de là, effectivement, on comprend bien qu'il y a des verrous et qui sont politiques et économiques notamment. Et donc voilà, je trouve ça intéressant de le ramener aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire que il ne faut pas se laisser enfermer dans l'argument de est-ce que c'est réaliste ou pas réaliste. C'est pareil sur la transformation, que ce soit la reterritorialisation ou être sur des diètes plus végétales, etc. En fait, on a une pléthore d'études qui montrent que c'est réaliste et tout à fait faisable dans les limites physiques qu'on connaît aujourd'hui, mais qu'encore plus, elles vont nous aider à améliorer notre cadre, notre milieu. Et ça, il y a des études à l'échelle nationale, européenne. J'ai pris quelques notes. Là, il y a DIFA, l'UMR Métis, Solagro aussi qui a œuvré là-dessus. Et donc, au niveau chiffrage, tableur Excel, comme c'est dit dans le film, il faut sortir des tableurs Excel, mais bon, il y a quand même des tableurs Excel à un endroit. Ben, en fait, tout ça, c'est quand même les directions, le besoin de transformer notre système alimentaire et les directions à prendre. On ne devrait plus trop avoir de débat là-dessus. Maintenant, c'est pourquoi ça ne se passe pas. Et donc s'attaquer à cet élément-là me semble ce qui doit nous mobiliser tous aujourd'hui, quoi. Voilà. Après les circuits courts, bah oui. Moi, quand j'ai vu le film, ça fait partie des choses qui m'ont parlé, à la fois dans cette idée de relocaliser et pour en fait refaire de l'alimentation un sujet du quotidien et de proximité. Et à nouveau, je renvoie vers le film et le propos de Nicolas Bricas. Ce qui est intéressant dans la relocalisation, c'est aussi une question d'autonomisation, mais au sens reprendre du pouvoir. Donc retrouver de la possibilité de choix, et ça fait le lien avec la SSA, parce que c'est exactement ça, la SSA, notamment au niveau local. C'est de décider ensemble de comment on va manger et de s'assurer qu'en fait, tout le monde autour de nous puisse manger correctement. Et quand on ramène ce sujet-là dans notre champ du quotidien, quand ça concerne nous, nos voisins et les gens autour de nous, bah c'est plus difficile de tourner la tête, quoi. Comme c'est si facile de le faire dans un supermarché. Et je pense que c'est un des grands enjeux de la relocalisation, c'est aussi cet aspect vraiment démocratique et politique. Parce que ça fait quand même 12 ans que je travaille sur les questions de relocalisation alimentaire et agricole. Et je crois qu'il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que relocaliser, ce n'est pas vertueux en soi. Ce n'est pas le fait de relocaliser qui est vertueux. C'est tous les enjeux qu'on associe autour. Donc ça peut être, on va relocaliser parce qu'on va vouloir mieux comprendre comment ce qu'on mange est produit. Par exemple, ça, c'est ce qui a d'abord motivé les AMAP et les Tekkei il y a plus de 70 ans au Japon, parce qu'il y avait des scandales, notamment sanitaires, d'empoisonnement de la nourriture. Et les gens se sont d'abord organisés pour dire en fait, on veut comprendre comment est produit ce qu'on mange. Et ça, c'est un des enjeux de la relocalisation qui date du XXe siècle. Il y a eu des enjeux de répartition de la valeur. Donc, c'est comment on s'organise en tant que société pour produire, transformer, stocker et distribuer de l'alimentation. Et en fait, là, il y a des grands problèmes, j'en parlais donc tout à l'heure, sur de concentration économique, d'oligopole, notamment au niveau de la distribution, qui capte énormément de la valeur, mais qui aussi structure notre façon de nous organiser, donc en créant des normes, en ayant du pouvoir dans la négociation au niveau des prix. On en parle quand même régulièrement avec des crises autour du lait ou d'autres produits agricoles. Et donc ça, c'est un des enjeux qu'on associe à la relocalisation. Donc je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que faire proche en soi n'est pas une fin, quoi. C'est pas ça qui va. Et d'ailleurs, c'est aussi très bien dit. Je fais des échos au film, mais parce qu'il y a tous ces éléments-là qui sont bien montrés par Florent de la Carline, qui montre bien que il faut éviter le piège de l'autarcie. Quand on parle d'autonomie, on est dans quelque chose de beaucoup plus complet et complexe que ça, que ce n'est pas simplement faire produire et manger ce qu'il y a sur place. C'est oui, évidemment, produire ce qu'on peut produire, mais aussi tisser des... Moi, je parle de sortir des dépendances subies à des dépendances choisies et de construire des relations de complémentarité entre territoires, entre cultures, quoi. Voilà.
Merci.
Désolé, c'est un peu...
Non, c'était très complet, merci. Est-ce que dans le public, il y aurait des questions que vous aimeriez poser à Raphaël ou Noé ?
Merci. Oui, par rapport à la sécurité sociale de l'alimentation, je voyais aussi un autre aspect qui est l'anti-gaspillage. Et par ici, sur Oust-sur-Scie, il y a une initiative là-dessus, c'est les Labos de Paulette. Et je voulais savoir si sur le territoire, il y avait d'autres acteurs qui luttaient contre le gaspillage alimentaire, justement sur les périodes de surproduction.
Et peut-être que vous pouvez expliquer comment ils luttent contre le gaspillage alimentaire à les Labos de Paulette ?
Oui, alors de plusieurs façons. La première, c'est qu'ils sont en partenariat avec un organisme qui s'appelle Phoenix, je crois, pour récupérer des invendus à Intermarché. Et d'autre part, il y a des partenariats avec les producteurs locaux.
Non, je n'ai pas connaissance d'autres initiatives, mais je sais qu'il y a des pratiques, sans être structuré en initiative, il y a des pratiques habitantes de glanage, de récupération, d'aller faire les champs après les récoltes, parce qu'il reste des productions au champ des fois, ou simplement des produits qui ne sont considérés pas vendables. On l'a vu à nouveau dans le film avec Yann Ouellette, sur des petites choses qui font qu'on ne peut pas vendre des produits en tant que producteur, mais finalement les gens peuvent les récupérer. Donc moi j'ai connaissance de pratiques, on va dire individuelles ou collectives, mais informelles quoi, plutôt. Mais sinon j'ai pas sur le territoire, je sais pas.
Moi non plus sur le territoire, je peux pas répondre. Après sur la SSA, il y a une initiative en ce moment qui est en train de se monter pour monter une caisse locale. En lien avec la communauté de communes. Donc ça, c'est aussi voilà, une particularité. Chaque caisse a son propre montage institutionnel. Nous, on a fait le choix de ne pas avoir de collectivité. Enfin, est-ce que c'est un choix ? En tout cas, nous, on est vraiment un collectif citoyen, c'est un collectif d'habitants. Vraiment, c'est des habitants qui se sont organisés entre eux à l'initiative d'un maraîcher, d'une élue aussi, mais qui n'a pas pris la place de l'institution là-dedans. À Montpellier, la métropole est très impliquée, la mairie, la métropole sont... Voilà, donc il y a plein de modèles, et ça, ce qui est bien, c'est qu'on expérimente des modèles très différents, notamment en termes de résilience face à la baisse des subventions, par exemple. C'est intéressant de tester ces nouveaux modèles. Et sur le gaspillage, la SSA l'adresse d'une façon très systémique. Après, chaque caisse peut avoir voilà, son petit réseau pour faire de l'anti-gaspille local. Mais c'est un problème systémique, le gaspillage, avec le modèle agro-industriel dans lequel on est, et en particulier la grande distribution, qui défiscalise, qui peut défiscaliser en donnant à l'aide alimentaire. Donc, en faisant ça pour lutter contre le gaspillage, quelque part, on l'encourage, puisque au lieu de changer le modèle de distribution qui génère tout ce gaspillage, il suffit de le donner à l'aide alimentaire. Donc, le gaspillage existe toujours. Il y en a une partie qui part à l'aide alimentaire, mais pas toute. Et ça rapporte presque de l'argent à la grande distribution. Donc, voilà, il y a un système qui marche sur la tête. Et du coup, nous, on l'adresse de cette façon-là, quoi, une échelle plutôt systémique, en disant, bah, voilà, c'est une façon de produire l'alimentation qui ne fonctionne pas. Et voilà, faisons autre chose, quoi.
Oui, sachant que c'est un tiers de la nourriture produite qui est gaspillée aujourd'hui partout dans le monde. Donc c'est vraiment un problème systémique. C'est pas qu'un problème ni local ni national, c'est vraiment dans tous les pays, à des endroits différents de la chaîne alimentaire, mais c'est vraiment un vrai sujet. J'ai le temps de poser une dernière question. Oui. Moi, j'avais envie de finir par une petite question qui peut-être va nous donner envie d'aller de l'avant, en vous demandant qu'est-ce qui vous rend optimiste dans les différents projets que vous menez, dans votre quotidien aussi d'habitants de ce territoire. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour le futur?
Moi, j'ai déjà dit si j'étais optimiste ou pas. Voilà. Mais par contre, toutes les personnes qui sont impliquées dans notre caisse Alim, donc c'est le nom de notre caisse locale alimentaire, on a fait un bilan il n'y a pas longtemps du Conseil local de l'alimentation, qui est donc l'espèce de petite convention citoyenne qu'on a montée pour créer ce conventionnement et les modalités de la caisse. Et en fait, le fait de s'impliquer dans un processus démocratique, donc qui a duré un an en l'occurrence, a donné beaucoup d'espoir aux gens qui se sont impliqués. Voilà, donc je pense que de s'engager dans des formes différentes de démocratie, là il y a les municipales bientôt. Voilà, dès qu'on est... On est dans une démarche où on essaye de reprendre un peu le pouvoir, parce qu'en fait, c'est ça le maître mot, c'est le pouvoir, comment on reprend le pouvoir, et le faire à l'échelle qui est la plus proche de nous et la plus, voilà, qui est en tout cas possible pour nous. Hein, on ne va pas devenir député demain ou au président de la République, mais il y a plein d'espaces de pouvoir qu'on peut se réapproprier. Et moi, ça me donne de l'espoir. Ça m'a, dans ma vie, notamment dans mon engagement dans les municipales, ça m'a vraiment transformé cette espèce de pessimisme ambiant. Donc, moi, à titre personnel, ça me transforme. Et de tous les gens que j'ai pu accompagner dans cette démarche de démocratie alimentaire, voilà, ça a aussi généré de l'espoir. Donc, voilà, je pense que la démocratie, ça donne de l'espoir.
La SSA. Et après, un autre truc que je voulais dire, mais je n'ai pas trop abordé la thématique agricole du coup, mais le film est intéressant pour ça un peu, parce qu'il donne accès au milieu agricole. Je crois que de façon un peu à bas bruit et de façon progressive, il y a quand même une ouverture qui s'opère dans l'agriculture, où c'était quand même, depuis la professionnalisation de l'agriculture et l'industrialisation de l'agriculture, un milieu très fermé où c'était compliqué d'avoir du débat. Et aujourd'hui, la majorité des gens qui souhaitent s'installer en agriculture, donc plus de 60% au niveau national, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Drôme, c'est valable partout, sont des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. Il y a des choses qui bougent. Ça veut pas dire qu'il faut tout... voilà, tout jeter et refaire à zéro. Mais c'est juste que moi, je trouve ça très sain de voir que les sujets agricoles sont de plus en plus présents dans le débat public. Et le monde paysan, pour le côtoyer depuis que je m'installe, donc depuis peu, mais depuis quelques années, a beaucoup de choses aussi à apporter. Et voilà, je trouve ça me donne de l'espoir de voir la question... agricole et paysanne devenir quelque chose de plus sociétal, de plus général, qui concerne un peu plus tout le monde, et que en fait quand on creuse, on se rend compte que c'est intéressant, tout le monde a des liens avec l'agricole, il y a plein de gens qui font plusieurs métiers, et je pense que ça va devenir plus fréquent, enfin voilà, ça me donne de l'espoir quoi, aussi, et là c'est ça.
Eh bien merci à tous les deux, on va merci. Terminer cette table ronde sur ces mots d'espoir et le mot SSA surtout. Donc si vous ne connaissez pas encore cette initiative et si vous avez surtout envie qu'on passe de 80 à 100 à 200, eh ben, n'hésitez pas, comme a dit Raphaël, à peut-être rejoindre des groupes locaux et vous engager à vos façons, chacun et chacune, à vos endroits. On vous remercie d'être resté.
Il y a une dynamique SSA sur le territoire qui commence à prendre.
Le territoire de...
Vallée de la Drôme.
Voilà.
Restez attentifs.
Restez attentifs. Merci à toutes et à tous et on vous souhaite une bonne soirée.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations du film La théorie du boxeur sur notre site lathéorieduboxeur.fr. Retrouvez aussi notre web-série Sortir du ring sur Imago et YouTube pour creuser dans des formats courts les thématiques du film et aller plus loin dans la présentation des solutions existantes. Un grand merci à François Goldin, Céline Basset, Raphaël Anginot, Noé Guiraud et à Charlie Delbois pour l'animation. Merci aussi au Cinéma L'Éden et à Radio Saint-Ferréol. À bientôt!